Vous écoutez, on lit pour vous.
Se faire tester ou pas, un texte d'Isabelle Haché paru le 28 octobre 2024 dans la presse. Ce n'est pas un scoop. Richard Martineau est atteint d'un cancer de la prostate. C'était en manchette du Journal de Montréal le 10 octobre 2024. Depuis, le prolifique chroniqueur est allé à Tout le monde en parle et a écrit deux autres papiers sur le sujet, chaque fois avec le même message « Allez vous faire tester, les gars ». Dans sa dernière chronique, Richard Martineau raconte qu'il n'hésite pas à montrer sur Facebook tout ce qui est dégueulasse avec le cancer qu'il combat. Ses plaies, les poches d'urine qu'il doit vider, ses difficultés à déféquer avec une sonde dans le pénis, etc. Narcissisme? Non. Je veux faire peur aux gars pour qu'ils aillent se faire tester au plus sacrant, écrit-il. Et ça marche. Le cancer hyper médiatisé de Richard Martineau fait peur aux gars et même aux filles. À preuve, j'ai profité d'une visite chez mon médecin de famille l'autre jour pour lui en glisser un mot. Pas pour moi, évidemment. J'ai demandé pour mon chum. Début cinquantaine, sans symptômes, devrait-il aller se faire tester au plus sacrant? Mon médecin m'a répondu que ce n'était pas vraiment une bonne idée. Je suis tombée en bas de ma chaise. Comment ça, pas vraiment une bonne idée? Mon chum devrait donc tout ignorer du cancer qui le ronge peut-être à petit feu? Laisser la tumeur se propager en métastase meurtrière? Fermer les yeux en espérant tout bonnement que ça passe? Une fois remontée sur ma chaise, j'ai poussé mes recherches un peu plus loin. Conclusion, même si ça peut sembler illogique à première vue, je dois bien avouer que mon médecin a parfaitement raison. La science ne recommande pas le dépistage de routine du cancer de la prostate. Pour les hommes qui n'ont pas de symptômes, ça risque même de faire plus de mal que de bien. Dépister le cancer de la prostate sans aucun symptôme, c'est sûr que la communauté médicale n'est pas d'accord avec ça, confirme le docteur Maurice Gaudreau, président du Collège des médecins du Québec, un ordre professionnel qui se base sur des avis scientifiques produits par des sociétés savantes. Par exemple, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, INES, recommande que le dépistage par dosage de l'antigène prostatique spécifique, APS, ne soit pas offert aux hommes de façon systématique. Idem pour l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ. Même procure, l'organisme québécois de lutte contre le cancer de la prostate, dont Richard Martineau est le nouvel ambassadeur, soutient une approche personnalisée et informée plutôt qu'une recommandation systématique pour tous les hommes. Cette prudence semble contre-intuitive. Ne devrait-on pas chercher par tous les moyens à diagnostiquer un cancer le plus tôt possible, histoire de mettre toutes les chances de son côté? C'est vrai, avec beaucoup de cancers. Le dépistage précoce du cancer du sein, par exemple, contribue à réduire la mortalité chez les femmes. La science est claire à ce sujet. Tellement qu'au Québec, rien n'est certain, à part la mort, les impôts et la lettre d'invitation à subir sa première mammographie dès qu'une femme atteint l'âge de 50 ans. Mais pour le cancer de la prostate, les bénéfices d'un dépistage précoce sont beaucoup moins évidents. Le docteur Maurice Gaudreau confirme « Si on procède de façon générale chez les hommes, on peut créer plus de dommages qu'autre chose. Les inconvénients possibles, à court terme, vont dépasser les avantages à long terme que pourrait avoir un tel dépistage. Selon les données de l'INES, sur 1000 hommes ayant subi le test par dosage de l'APS, un seul évitera la mort par cancer de la prostate grâce à ce dépistage. C'est déjà ça de pris, me direz-vous? Le problème, c'est que sur les 1000 hommes dépistés, 140 auront un résultat d'APS positif sans avoir le cancer de la prostate. Sur ces 140 hommes qui auront reçu un faux positif et qui auront vécu dans l'angoisse d'être atteints du cancer, alors que ce n'était pas le cas, 120 auront une biopsie, dont 30 auront des complications, parfois graves, comme des infections. Ce n'est pas tout. Sur les 1000 hommes dépistés, 100 recevront bel et bien un diagnostic du cancer de la prostate. Mais 95 d'entre eux mourront d'autre chose puisque ce cancer a tendance à évoluer très lentement. Parmi ces 95 hommes, 40 seront surdiagnostiqués, c'est-à-dire qu'ils n'auraient jamais su qu'ils avaient un cancer s'ils n'avaient pas été dépistés. Ce cancer dit indolent n'aurait eu aucune conséquence sur leur vie. Mais puisqu'il a été diagnostiqué, ces hommes recevront des traitements inutiles, aux effets potentiellement néfastes, comme l'incontinence et la dysfonction érectile. Ainsi, parfois, il vaut vraiment mieux ne pas savoir. C'est d'ailleurs ce qui arrive dans bien des cas. On dit souvent que si on faisait une autopsie sur les hommes de 100 ans, on trouverait un cancer de la prostate chez la grande majorité d'entre eux. Ces gens-là ne le savaient pas, dit le docteur Alain Mayette, président de l'Association des urologues du Québec. Le chanteur des Cowboys fringants, Carl Tremblay, a eu la très grande malchance d'avoir un cancer de la prostate particulièrement virulent et atypique, auquel il a succombé à seulement 47 ans. Bien entendu, tous ces bémols ne signifient pas qu'il soit déconseillé de subir un test par dosage de l'APS en tout temps et en toutes circonstances. Si vous avez une histoire familiale de cancer de la prostate, ce n'est pas une mauvaise idée d'avoir un dépistage, souligne le docteur Mayette. Si vous avez des symptômes aussi, comme un besoin fréquent d'uriner, surtout la nuit. Sinon, tout dépend de vos priorités. Si vous voulez être certain de ne pas avoir le cancer de la prostate, mieux vaut procéder au dépistage, mais là encore, sachez que l'APS produit 15% de faux négatifs. Si vous préférez éviter les traitements médicaux inutiles et potentiellement nocifs, mieux vaut passer votre tour. L'Université Laval a produit une boîte à décision pour aider les hommes à faire un choix éclairé. Évidemment, rien de tout cela ne remplacera une bonne discussion avec votre médecin. C'était « Se faire tester ou pas », un texte d'Isabelle Haché paru le 28 octobre 2024 dans la presse.
Young Hearts, entre amitié et amour. Une entrevue réalisée par Yves Lafontaine, parue le 3 novembre 2024 dans le magazine Fugue. Elias, 14 ans, vit dans un petit village de Flandre. Lorsque Alexander, son nouveau voisin du même âge venant de Bruxelles, emménage en face de chez lui, Elias réalise qu'il est en train de tomber amoureux pour la première fois. Il devra alors faire face au chaos intérieur provoqué par ses sentiments naissants afin de vivre pleinement son histoire avec Alexander et de la révéler à tous. Avec son premier film, applaudi à la Berlinale, Anthony Scatman livre une œuvre d'apprentissage lumineuse dans une veine autobiographique sur un jeune garçon qui découvre l'amour. Désireux de réaliser un film pour tous, optimiste et réjouissant, il choisit de mettre en scène une histoire d'amour plus grand que tout, où ces jeunes personnages ne luttent pas tant contre des obstacles extérieurs, comme l'homophobie, que contre des obstacles internes surmontables grâce au dialogue et au soutien familial. Ce parti pris à la fois populaire et feel-good, assez inédit dans le genre du film pour ados et jeunes adultes, se ressent dans la mise en scène. Images lumineuses et colorées, musique pleine d'émotions, sans oublier l'interprétation aussi juste qu'attendrissante des deux jeunes héros, Lou Gossens et Marius de Saiger. Dans la lignée de Close, de Lucas Dont, qui est d'ailleurs producteur du film, un film nécessaire, pédagogique et inspirant pour tous les ados et les plus vieux. Nous nous sommes entretenus avec le réalisateur du film, Anthony Scatman. Qu'est-ce qui vous a inspiré à réaliser Young Hearts? Je voulais vraiment faire un film pour une version plus jeune de moi-même. Quand j'étais jeune, j'avais des problèmes avec mon identité et ma sexualité et je me posais beaucoup de questions. Mais je n'arrivais pas vraiment à trouver de réponse, ni à la maison, ni avec mes amis, ni à l'école, ni dans les livres, ni dans les films, ni dans la culture. Mon objectif était de faire un film où l'on se concentre uniquement sur le point de vue romantique, afin que ce film d'apprentissage puisse également être montré à un très jeune public. Comment avez-vous développé les personnages et le scénario du film? Bien que l'histoire n'est pas autobiographique, la famille est basée sur ma propre famille et l'enfant sur qui j'étais quand j'étais jeune. C'était important pour moi de fictionner les personnages et l'histoire, mais je pouvais toujours faire référence à l'émotion que je ressentais à cet âge. C'était un retour en arrière dans ma jeunesse, mais j'avais très envie de faire le film que j'aurais vécu avec plaisir. Plusieurs scènes, bien sûr, ne se sont pas produites dans la vraie vie, mais c'étaient les scènes que j'aurais souhaité qu'elles se produisent. Le film aborde les thèmes du jugement social et de l'identité. Pourquoi ces thèmes et quelle signification ont-ils pour vous? J'ai grandi dans une société très hétéronormative. Je ne connaissais pas de garçons qui tombaient amoureux de garçons. Mon entourage me démontrait que l'homosexualité était quelque chose de mauvais, et c'était vraiment difficile. Il y avait un professeur gay dans mon école et tout le monde parlait en mal de lui. Donc, je ne pouvais dire à personne que j'étais comme ça. Je voulais montrer un monde dans lequel tout le monde est d'accord et me concentrer uniquement sur la lutte interne. Avec ce film, je voulais créer quelque chose de différent et montrer aux enfants qu'ils ont le droit de suivre leur cœur et que s'ils sont bien entourés d'une famille aimante, ils peuvent être qui ils veulent et réaliser tout ce qu'ils veulent. Comment avez-vous abordé le processus de casting du film, notamment dans la sélection des acteurs pour les rôles d'Elias et Alexander? Le plus important était de trouver des acteurs du bon âge. Nous avons interviewé pas mal de garçons entre 11 et 18 ans. Ils ne devaient pas être trop enfantins ni trop matures. Alors quand nous avons trouvé Marius de Saiger, qui joue Alexander, je savais que c'était le meilleur choix que nous puissions trouver. Il était important pour moi que les adolescents que nous allions trouver soient crédibles, qu'on y croit, et c'est quelque chose que j'ai trouvé en Marius. Et heureusement, on a rencontré Lou Gossens pour le personnage d'Elias quelques jours plus tard, et quand nous avons fait les tests, le match entre ces deux garçons était tellement beau que je savais que ces garçons allaient incarner parfaitement les deux personnages principaux. Comment avez-vous travaillé avec les acteurs pour capturer les relations complexes et les sentiments exprimés dans Young Hearts? Un de mes bons amis, Oliver Rose, un thérapeute pour enfants et psychologue professionnel, m'a aidé dans tout le processus de casting, m'a aidé à trouver la bonne manière pour parler d'émotions avec les jeunes acteurs. Au lieu de travailler sur des dialogues écrits, nous avons beaucoup parlé d'émotions. Je savais que si les garçons pouvaient, lors de nos discussions, exprimer les émotions que je voulais représenter dans les scènes, qu'ils pourraient plus vraisemblablement jouer ces scènes. Nous n'avons pas parlé du fait que je voulais qu'ils jouent un enfant homosexuel, car il ne s'agit pas de sexualité encore. Mais nous nous sommes juste assurés qu'ils comprenaient ce que je voulais dire dans les scènes et ce que nous attendions d'eux. Lorsque nous parlions d'émotions comme l'amour, l'amitié, la tristesse, l'attirance et la colère, nous sentions que nous avions parfois des points de vue différents sur ces émotions. Mais au final, c'était pareil. Ils étaient juste très attentifs, très compréhensifs. Ils ont eux-mêmes proposé certaines choses et ont vraiment compris ce que je voulais créer. Je crois que c'est la raison pour laquelle ces scènes fonctionnent si bien. Nous nous faisions mutuellement confiance et avons vraiment montré nos émotions avant le tournage. C'était vraiment cool. La relation d'Elias avec son père et son grand-père joue un rôle important dans le film. Qu'est-ce qui vous a inspiré à explorer ces dynamiques familiales et qu'espérez-vous que le public en retienne? Quand j'étais jeune, j'ai toujours pensé que j'étais seul avec mes questions, que je grandissais et que je me sentais comme un étranger. En discutant avec mes parents et mes grands-parents quand j'étais un peu plus âgé, j'ai remarqué que chacun d'entre eux avait vécu des moments de solitude émotionnelle. C'était vraiment important pour moi de me concentrer sur différentes générations, car les grands-parents attendent moins d'un petit enfant que les parents de leurs enfants. Pour moi, c'était vraiment important de montrer ces différentes générations. Mon père et moi n'avons jamais vraiment parlé de nos émotions avant ce film. Mais créer ce film et raconter cette histoire nous a vraiment rapprochés. C'était Young Hearts, entre amitié et amour. Une entrevue réalisée par Yves Lafontaine, parue le 3 novembre 2024 dans le magazine Fugue.
Famille de 7 enfants cherche une maison. Un texte d'Hugo Meunier, paru le 3 octobre 2024 dans Urbania. Chercher un toit après un incendie en se faisant insulter. Ça doit être de 7 pères différents. Vous devez être des BS tout croche. Vous êtes artisans de vos malheurs. Assise à la table de cuisine d'un logement un peu défraîchi de Chicoutimi-Nord, Amélie Boucher n'énumère qu'une petite fraction des commentaires qu'elle a reçus depuis qu'elle a entamé sa quête pour un toit qui saurait abriter sa famille nombreuse. Et encore là, je t'épargne les pires, soupire la maman de 42 ans, dont la vie a basculé le 11 septembre dernier. Ce jour-là, elle faisait une sieste avec les deux cadets de sa tribu, Flavie et Adrien, lorsqu'un incendie s'est déclaré dans la maison qu'elle louait depuis à peine un an, à Saint-Fulgence, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le feu a été tellement soudain, instantané. Les pompiers ont mis 4 heures à l'éteindre. La maison est une perte totale, résume Amélie. Sa famille a été relocalisée dans un hôtel durant 48 heures avant de se dénicher un refuge temporaire dans le Airbnb de Chicoutimi, où je l'ai rencontré en début de semaine. Par chance, personne n'a été blessé, incluant les poules, les canards, les 2 rats de sa fille Léonie, 2 chats et autant de chatons. Comme la thèse criminelle a vite été balayée, c'est l'un des chatons qui serait le principal suspect dans cette affaire, du moins selon Amélie. J'allume souvent des petites chandelles dans la journée et un des chats a dû jouer avec puisque j'ai retrouvé de la cire collée sur sa queue. L'incendie n'a pas mis de temps à se répandre, mais les pompiers sont vite débarqués puisque la caserne se trouve de l'autre côté de la route. Je dormais et c'est l'odeur qui m'a réveillé. En ouvrant la porte de la chambre, j'ai vu que le divan était en feu. J'ai pensé essayer de l'éteindre, mais j'ai eu peur de tomber sans connaissance et de ne pas pouvoir sauver les enfants, raconte Amélie, qui éprouve un malaise vu la tournure des événements, mais aussi envers le propriétaire de la maison. Surtout que ce dernier, Gilbert Turcotte, avait chaleureusement accueilli la famille en quête d'un nouveau départ. Il nous avait organisé un party de bienvenue avec les gens du village, souligne Amélie, dont la relation avec le proprio s'est envenimée depuis le sinistre. Je vous épargne l'imbroglio judiciaire un brin compliqué sur fond de police d'assurance, mais en gros, la famille d'Amélie n'a pas les moyens d'allonger les milliers de dollars nécessaires pour se défendre. Gilbert, on ne veut pas salir sa réputation. C'est un bon monsieur et on comprend sa peine, mais c'est un accident, tout ça, plaida Amélie, visiblement dépassée par l'affaire. La générosité de Saint-Fulgence. À Saint-Fulgence, une petite municipalité située à 15 minutes de voiture de Chicoutimi, la maison placardée sent encore la boucane, deux semaines après le brasier. Autour, les oiseaux font un boucan d'enfer, mais ce n'est rien comparé aux voitures qui défilent à vive allure sur la route de Tadoussac. La résidence en ruine se trouve à l'extrémité du terrain attenant à la ferme du Ruisseau, une entreprise de production de fraises et de framboises bien connue du coin. Joint pour commenter les tristes événements, le propriétaire Gilbert Turcotte n'a pas voulu s'épancher, se contentant de déplorer la perte de la maison de son enfance où il a vécu 50 ans. « En plus, je n'ai pas de relève pour la ferme et je préparais ma retraite », déplore M. Turcotte. Devant la maison barricadée, on aperçoit quelques boîtes d'effets personnels qui ont échappé aux flammes, de même que des bicyclettes. Sinon, la famille a tout perdu. Dans le voisinage, tout le monde a entendu parler de l'histoire de la famille de Neuf qui s'est retrouvée à la rue. La générosité qui distingue cette communauté tissée serrée s'est donc fait sentir à coups de dons de toutes sortes. On a tellement reçu de sacs de linge qu'on ne savait plus quoi en faire et on n'a nulle part pour entreposer ça, mais c'est super gentil, s'émeut Amélie. Une amie de Léonie, sa fille aînée, a aussi lancé une campagne de sociofinancement pour leur venir en aide. Autant d'initiatives qui mettent Amélie un peu mal à l'aise, incluant cette entrevue. Je ne suis pas quelqu'un qui aime le spotlight. Je le fais parce qu'on a besoin d'un toit. Mission quasi impossible. Et c'est là le nerf de la guerre. Trouver une maison pour héberger une aussi grosse famille. C'est déjà une mission quasi impossible de se loger à prix décent en 2024 pour quiconque. Imaginez devoir le faire avec 7 enfants et des revenus relativement modestes. Ici, on paye 2 000 $ par mois et on peut rester jusqu'au 31 décembre maximum. Ensuite, c'est loué à d'autres mondes, souligne Amélie. L'année 2025 est donc synonyme d'un gros point d'interrogation. Amélie consacre ses journées à contacter des propriétaires via Airbnb ou des maisons à vendre qui ne trouvent pas preneur sans succès. Dès que je parle d'enfants, je me fais virer de bord, déplore Amélie, de retour aux études en ressources humaines après avoir été coordonnatrice d'une ressource communautaire dédiée aux personnes en précarité. Alex, son conjoint, s'est aussi inscrit aux études au cégep de Jonquière en génie industriel. Mais leurs prêts étudiants et dons reçus ne suffisent pas pour trouver mieux qu'un logement défraîchi dans un quartier un peu paumé de Chicoutimi. Le logement, réparti sur 2 étages, comporte seulement 2 chambres et 1 salon pour y installer 8 personnes. Ma plus vieille s'est fait offrir une résidence par son cégep, note Amélie qui n'aime pas trop le coin. Il y a beaucoup de toxicomanie et de consommation. Ce n'est pas l'idéal pour les enfants, souligne la maman. Un simple coup d'œil aux environs témoigne que le quartier est mal famé, donnant directement sur le pont du Buc et le boulevard Sainte-Geneviève. Plus qu'un toit. La petite Flavie s'étire le cou au-dessus de la table et me regarde avec ses beaux yeux bleus. Amélie pousse vers elle un petit bol contenant des raisins. Alex gère une couple d'affaires au téléphone dans la chambre principale. Depuis l'incendie, le couple croule sous la paperasse. Les premières journées après l'incendie, on n'a pas dormi. On aurait dit qu'on était sur le speed, mais là, on réalise qu'on n'a plus de maison, plus de souvenirs. C'est pas juste un toit qu'on a perdu, laisse tomber Amélie, qui n'a pu sauver des flammes qu'une boîte de souvenirs et quelques outils. S'il n'en tenait qu'à elle, Amélie retournerait vivre à Montréal dans son ancien quartier, Rosemont. Mais le marché locatif actuel l'entend autrement. C'est d'ailleurs pour cette raison que la famille s'est d'abord retrouvée à Vaudreuil, puis à Boucherville, avant de finalement échouer au Saguenay, toujours à la merci des offres pouvant accommoder un tel clan. Ce n'est pas l'air pur du Saguenay, les grands espaces, la vie de banlieue ou la qualité de vie qui dicte l'endroit où la famille pose ses valises, mais simplement la rare possibilité de louer une maison munie d'au moins 4 chambres à un prix décent. La famille a d'ailleurs coulé des jours heureux dans une maison abordable à Boucherville, jusqu'au jour où le proprio a décidé de vendre pour profiter de l'explosion des prix sur le marché immobilier. La famille a dû se rabattre sur une autre maison à Boucherville pour vite découvrir qu'il s'agissait d'un logement insalubre. Au Saguenay, les choses semblaient enfin au beau fixe. Mais le destin avait encore d'autres plans, sous la forme d'un simple coup de patte de chaton. Et même si je veux partir, pour la première fois de leur vie, mes enfants se sont super bien adaptés, dit Amélie, non sans amertume. Léonie, 19 ans, va au cégep. Zach, 17 ans, est inscrit en musique et a des amis pour la première fois. À la fin de l'année scolaire, il compte faire un voyage à Nashville avec ses camarades de classe. Édouard, 15 ans, tire son épingle du jeu au basketball avec les Cyclones. Les autres, Gabriel, 12 ans, Léna, 9 ans, Adrien, 5 ans et Flavie, 2 ans, se sont aussi bien intégrés à leur nouvel environnement. Tout le monde s'est bien adapté. Sauf moi, finalement, reconnaît Amélie. Elle poursuit malgré tout ses recherches, refusant de baisser les bras face aux nombreux obstacles qui se dressent contre elle. Au lieu de s'apitoyer sur son sort, Amélie Boucher s'estime néanmoins chanceuse. Ma famille peut m'aider. J'ai de l'éducation, mais je me mets à la place de quelqu'un qui n'en a pas, comme les parents du livre Rue Duplessis. Si je vis autant de préjugés, je n'imagine pas les autres, admet-elle, déplorant le manque d'empathie ambiant. Pour l'heure, la famille tente de mener une vie normale malgré l'incertitude, l'anxiété croissante des enfants et les jours qui s'égrènent à toute vitesse. On a 7 lits à acheter et on n'a plus de laveuse-sécheuse, lance Alex depuis le salon, comme s'il angoissait à voix haute. C'était « Famille de 7 enfants cherche une maison », un texte d'Hugo Meunier paru le 3 octobre 2024 dans Urbania.